cours d'économie.
Le franc congolais continue à prendre de l'ascenseur. À ces jours, un dollar s'échange à plus de 1000 francs congolais. À la BCC, l'on rassure, c'est une situation qui est généralisée dans plusieurs pays d'Afrique. Et déjà, des mécanismes sont pris par la BCC, non pas pour arrêter cette course, mais plutôt pour l'atténuer. À Bounia, nous parlerons de ces SOS lancés par les exploitants forestiers du territoire de Bafoussende. Ces derniers dénoncent le paiement de plusieurs taxes dont le montant peut aller jusqu'à 400 dollars américains. Et nous terminerons par le séjour de l'envoyé spécial du Premier ministre britannique auprès de la RDC pour les questions commerciales. Objet de sa visite, renforcement de liens commerciaux entre la RDC et la Grande-Bretagne. Bonsoir mesdames et messieurs, nous ouvrons ce magazine par le marché de change. Le franc congolais n'est toujours pas en parfaite santé face au dollar américain. Le taux de la Banque centrale du Congo est à ces jours à 964,71 francs congolais contre le dollar et le taux parallèle à plus de 1000 francs congolais. Face à cette situation, quels sont les mécanismes mis en place par la Banque centrale du Congo pour ralentir cette hausse? Jean-Luc Kayembe, directeur général de la BCC, parle d'une situation généralisée dans plusieurs pays d'Afrique. Situation due par la chute de matières premières à l'international. La BCC a mis en place des mécanismes, non pas pour arrêter cette chute, mais plutôt pour l'atténuer. On écoute Jean-Luc Kayembe.
Ce qui est à la base, madame, c'est que c'est en fait la mauvaise conjoncture internationale. L'intervention va consister, dans la mesure du possible, à augmenter l'offre de devises sur le marché. La Banque centrale va voir dans les jours qui viennent, on attendra la décision du comité pour voir si elle peut intervenir sur le marché. Il y a d'autres instruments, notamment la Banque centrale peut relever les niveaux de coefficient de la réserve obligatoire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, elle peut stériliser encore une grande partie de la liquidité des banques.
C'est-à-dire, pour les communs des mortels.
C'est-à-dire, les francs congolais qui sont à la recherche des devises, les banques centrales peuvent stériliser ces francs congolais en augmentant les coûts. La Banque centrale peut également, attirer ces francs qui sont à la recherche des devises autrement, en vendant sous le marché des bons BCC. Les bons BCC, en mettant en vente les bons BCC, une partie de cette liquidité qui est à la recherche de devises peut être captée par les bons BCC. Ces deux instruments où ces deux opérations ont comme impact d'absorber un excédent de liquidité en francs et de les stériliser, à la banque centrale et de réduire la pression sur les devises. Ça, nous devons être clairs. Les interventions au niveau des autorités budgétaires et monétaires face à ces chocs, la baisse drastique des matières premières, des exportations et des rapatriements, l'action de pouvoir public des banques centrales consiste à atténuer l'ampleur de chocs. Donc, glissement de taux, il y en a eu dans tous les pays, mais les autorités sont intervenues pour lisser la dépréciation ou le glissement.
Fin hier jeudi à Kananga de l'atelier des vulgarisations de la nomenclature budgétaire organisé par le projet de renforcement de la recevabilité et de la gestion des finances publiques. Ces travaux de deux jours ont regroupé les animateurs des régies financières, ceux de services d'assiette et des finances, sans oublier les acteurs des associations commerciales. Pour les facilitateurs, il était question de doter les participants de notions sur la nomenclature budgétaire, sur le processus de réussite dans la traçabilité des dépenses et des recettes. Félicien Mbo explique au micro d'André Kambala Moujanaï.
La nomenclature budgétaire, en fait, c'est un outil de travail qui retrace du côté des recettes tous les actes générateurs pour lesquels les agents et services de l'État doivent mobiliser des ressources pour l'État. Et au niveau des dépenses, toutes les lignes de crédit pour lesquelles l'État doit s'engager à dépenser. Donc, c'est un acte qui codifie d'un côté les recettes de l'État et d'autre part les dépenses de l'État, mais de façon structurée pour que aucune dépense, aucune recette n'échappe à la gestion de l'État. De la chefferie, commune urbaine ou commune rurale, jusqu'au niveau du pouvoir central, on doit avoir les notions élémentaires et détaillées de la manipulation de la nomenclature des recettes pour que la recette qui est perçue à Dibaya soit prise en compte de manière ordonnée pour qu'elle puisse être transférée à la province. De la province, quand on fait les édits budgétaires maintenant, on doit capter cette recette-là au niveau du pouvoir central.
Comment vous allez y parvenir alors que chez nous, dans nos chefferies, il n'y a pas de banque?
La bancarisation concerne d'abord les paiements des agents de l'État. Mais dans les cas d'espèce, la gestion, si elle est ordonnée permet à ce que les receveurs qui est en province au niveau de chefferie puissent transférer l'argent perçu au niveau de la commune urbaine ou de la commune rurale. Prochainement, peut-être qu'on va installer les chaînes de recettes. Toutes les recettes perçues au niveau de Luisa, par exemple, sera captée directement au niveau de Kinshasa.
Les exploitants forestiers du territoire des Bafoussine dans la province de la Tchopo dénoncent des tracasseries dont ils sont victimes de la part des services étatiques en Ituri. Selon leur président, cela se passe quand ils empruntent la RN4 dans le territoire des Mambasa et d'Irumu pour aller écouler leurs marchandises au Nord Kivu. Ils sont soumis au paiement de plusieurs taxes dont le montant peut aller jusqu'à $400 américains. Jean-Luc Upio dit avoir rencontré les autorités provinciales de l'Ituri pour dénoncer cette situation. Il est au micro de Jean-Claude Loki.
D'abord, il y a les barrières de la sécurité des FRDC. Vous trouvez la DGRPI, mais autour de ça, vous avez plusieurs services qui sont là. L'OCC a placé une barrière à Mambasa et à Luna. Et sur ces postes-là, on fait payer sur la transaction locale. Les $10 par mètre cube. Et en plus, le service de l'ANER qui a la place, qui a un certificat de l'ANER qui aussi montre que la personne est à règle.
L'on paye aussi.
Alors on paye $10, évidemment. Il y a un circulaire du ministère de l'Environnement où il faut que la DGRAD, comme régie financière, perçoive l'argent des certificats phytosanitaires pour les bois destinés à l'exportation. Et le ministre est aussi clair à ses propos que cela doit être fait au niveau de la frontière. Vous arrivez à Lolwa, on vous exige, vous avez une barrière là-bas, il faut payer 36 000 francs et aussi on commence à vous demander de payer tous ces documents qui ne sont pas légalisés. Et si vous résistez, on vous laisse passer. Vous arrivez à Luna, on vous exige de payer tous ces documents. Vous pouvez passer là-bas plus de 48 heures pendant qu'on est tenté de vous exiger quelque chose qui n'a pas un soutien de texte légal. On se demande pourquoi maintenant, au cours des routes, quelqu'un puisse se munir au moins de $400-500 pour qu'il atteigne les marchés. Quel est le bénéfice qu'il faut avoir?
Contacté, le gouverneur intérimaire de l'Ituri, Pacifique Keta, dit avoir instruit son conseiller chargé de l'environnement pour suivre ce dossier avant d'envisager des mesures pratiques.
Écho d'économie.
Dans la province du Tanganyika, la direction de la régie des eaux Manono vient de résilier le contrat de plus de 120 employés journaliers qui prestent sur le chantier de construction de l'usine du traitement d'eau des Manono. La société civile exige le paiement des arriérés des salaires de ses employés avant tout désengagement de la régie des eaux. Amoury Aleka revient de Manono.
Ces employés journaliers sont au nombre de 120 personnes qui viennent de voir leur contrat résilié par la direction de la régie des eaux Manono. La coordination de la société civile qualifie cet acte de non légal et recommande à la régie des eaux d'épurer les arriérés des salaires avant de se séparer de ses employés, Abbé Moïse Kilouba.
Depuis le 28 mai, il y a eu, disons, soulèvement des ouvriers qui ont déclaré 3 mois d'impayement. L'argent serait versé et c'était $1 million. Et l'argent est viré où? Ou bien l'argent fait quoi? Nous demandons quand même que les autorités du Tanganyika aussi qu'elles s'impliquent pour découvrir comment est gérée cette histoire-là.
À la régie des eaux, on le reconnaît que quelques mois d'arriéré des salaires de ses employés qui prestaient avec un contrat journalier. L'administrateur du territoire de Manono parle, lui, d'un congé technique, François Kazembe.
L'argent a été logé dans les comptes de Biak. Biak a des problèmes de décaissement d'argent. Ils avaient totalisé 3 mois d'impayement. Au courant d'une même semaine, ils ont payé 2 mois. On n'a chassé personne. Si la société, on a difficile à réaliser, alors on a dit à ces gens-là, les journaliers peuvent d'abord attendre.
La prestation de ces employés journaliers remonte depuis l'ancienne configuration du Katanga, après le lancement des travaux de construction de l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux Manono. Les travaux sont momentanément à l'arrêt. Kalemi Amourialeka, Radio Kapi.
Je le disais au sommaire, le nouvel employé spécial du premier ministre britannique auprès de la RDC pour les questions commerciales était en visite officielle en RDC du 13 au 16 juin. Il a tenu une conférence de presse hier jeudi dans la résidence de l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC. Son séjour en RDC s'inscrivait dans le cadre du renforcement de liens commerciaux entre les deux pays. Durant sa visite, Richard Bennion a rencontré quelques officiels du gouvernement congolais et la communauté d'hommes d'affaires pour explorer des pistes en vue d'améliorer les opportunités d'affaires et d'investissement pour les bénéfices des deux pays. Richard Bennion parle des secteurs dans lesquels la Grande-Bretagne compte investir.
Donc j'ai eu des entretiens dans le cadre du climat des affaires en RDC et j'ai été très impressionné par la diversité du secteur privé ici en RDC qui pourrait éventuellement favoriser les investissements ici en RDC.
Il y a le secteur financier qui nous intéresse en premier lieu. J'ai également constaté qu'il y a un certain niveau de libéralisation, notamment une amélioration dans le domaine fiscal. Bien sûr, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a de l'expertise dans tous ces domaines et ils peuvent venir ici pour pouvoir améliorer le climat des affaires.
Sachez que c'était le premier voyage qu'effectuait l'honorable Richard Beignon, aussi membre du Parlement britannique depuis sa nomination à ce poste d'envoyé spécial du Premier ministre auprès de la RDC pour les questions commerciales. Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi.